Radio Kapi.
Patrice Emery Lumumba, héros national, a été assassiné il y a 64 ans, jour pour jour. Ce 17 janvier, jour de la commémoration de ce drame, à Beni au Nord Kivu, certains acteurs sociaux pensent que la lutte pour l'indépendance totale du pays reste inachevée. Ils en appellent à l'éveil patriotique des Congolaises et Congolais pour atteindre cet objectif. Les FARDC ont réussi à déloger ce vendredi matin les rebelles de Kasake, colline surplombant la localité de Ngungu, selon des sources dans la région. D'intenses combats ont lieu en effet ce vendredi autour de la localité de Ngungu dans le territoire de Masisi. Des offensives lancées depuis hier par les FARDC, elles tentent de reconquérir diverses localités occupées depuis quelque temps par le M23. L'invité de ce midi s'appelle Akizi Mwami Eli, directeur pays de World Resource Institute. Il va parler du projet pilote concernant la rénovation au monument Major Vangu, situé au quartier Pandi, dans la commune d'Ibanda. Nous sommes au sud Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. 17 janvier 61, 17 janvier 2025, 64 ans aujourd'hui que Patrice Emery Lumumba, alors Premier ministre du Congo, a été assassiné à Beni au Nord Kivu. Certains acteurs sociaux pensent que la lutte pour l'indépendance totale du pays reste inachevée. Ils en appellent à l'éveil patriotique des Congolaises et Congolais pour atteindre cet objectif. André Kitenge nous en dit plus.
Benjamin Asimoni, coordonnateur de l'ONG Jeunes Patriotes pour la consolidation de la PJPCP basée à Beni, pense que les Congolais n'étaient pas prêts pour diriger le pays à l'époque où Lumumba réclamait l'indépendance.
C'était opportune de réclamer l'indépendance, mais les procédés n'étaient vraiment pas complets parce que les Congolais n'étaient pas prêts pour diriger et ça a fait à ce que la gouvernance de notre pays échappe toujours à la notion de la planification. Tout parvient à nous surprendre. Lumumba nous a fait accéder à l'indépendance, mais il nous a rappelé que nous devons nous battre pour notre indépendance.
Fabrice Mulohali, cet autre acteur de la société civile, est presque du même avis, mais il pense que la date du 17 janvier est essentiellement commémorative, alors qu'elle devrait servir aux uns et aux autres à réfléchir à la lutte menée par Patrice Emery Lumumba.
Aujourd'hui, 64 ans après, on continue à commémorer. Sa lutte a été inachevée, parce que n'ayant jamais eu des bons successeurs capables de conduire tout ce que celui-ci avait comme pensée politique, tout ce que celui-ci avait comme vision du Grand Congo, c'est resté une date de commémoration, tout court, ce qui est déplorable. On aurait bien aimé qu'il ait, après lui, autant de Lumumba capables de pérenniser cette lutte et de la transformer en une réalité vécue.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au Nord Kivu, on signale d'intenses combats ce vendredi autour de la localité de Ngungu dans le territoire de Masisi. Des offensives lancées depuis hier par les forces armées de la RDC pour tenter de reconquérir diverses localités occupées depuis quelque temps par le M23. Les FARDC ont réussi à déloger ce vendredi les rebelles de Kasake, une colline surplombant la localité de Ngungu, selon des sources dans la région. Chris Mukande.
Depuis la perte la semaine dernière de la localité de Ngungu, les FARDC ont multiplié leurs efforts pour sa reprise. Hier, les combats ont redoublé d'intensité dans la zone autour des Kasake et des Ruzirandaka. Après qu'ils aient été repoussés et chassés de la colline des Kasake, les rebelles du M23 ont largué plusieurs bombes en direction des Ruzirandaka. Alors que les combats se poursuivent, des sources concordantes dressent un bilan de 2 morts et 2 blessés graves parmi les civils à Ruzirandaka. En revanche, sur le front de Masisi Centre, le calme est revenu ce vendredi matin. Nous apprenons que les rebelles du M23 ont légèrement élargi leur rayon opérationnel en s'emparant de la localité des Kanyi. C'est là qu'ils ont dressé leur position alors qu'ils continuent à occuper Masisi Centre. Les affrontements d'hier autour de Masisi Centre, Katale, Rukitsa et Katongole ont donné lieu une fois de plus à des mouvements de déplacement des populations. Des familles entières sont allées se mettre à l'abri dans l'enceinte de l'hôpital de Masisi. On déplore la mort des 2 personnes touchées par des balles perdues. 3 autres ont été blessés, indiquent des sources de la société civile. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Et pour mettre fin à la guerre, toute la population doit s'impliquer dans la recherche de la paix en développant un esprit de patriotisme en vue de faire échec au plan de l'ennemi de déstabiliser la RDC. C'est la principale recommandation sortie de la première journée du colloque des veilles patriotiques pour la paix, colloque organisé hier jeudi à Bounia en Ituri par le bureau provincial de la réserve armée pour la défense Radan Sigle. Selon l'organisateur, l'objectif de cette activité est de sensibiliser la population à la défense de la patrie pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Isaac Raymond.
Des centaines de personnes, dont des acteurs politiques et de la société civile, des leaders religieux, des représentants des jeunes et des militaires ont pris part à cette conférence. Plusieurs thèmes ont été abordés dans ces colloques, notamment l'esprit et les stratégies d'un grand visionnaire pour la paix, l'engagement de la jeunesse pour la paix et le développement, la géostratégie et la défense de la patrie, comment bâtir une nation forte et prospère. L'objectif de cette démarche est l'éveil du patriotisme à chaque citoyen pour mettre fin à la guerre en Ituri. Selon les autorités militaires en Ituri,
la paix est un bien commun, l'affaire de nous tous, car le destin de la RDC se trouve entre les mains de nous tous.
Le représentant du gouverneur à ses assises a dénoncé la complicité de certains fils de l'Ituri avec l'ennemi pour déstabiliser l'est de la RDC. Claudine Nzeni a exhorté la population à s'unir pour défendre la province en suivant les modèles de patriotisme de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Lumumba.
Certains fils égarés recrutent et forment certains jeunes. Nous devons nous serrer les coudes pour défendre nos intérêts, pour résister contre les ennemis de la paix.
Une séance de prières pour les pays a clôturé cette première journée de ces colloques sur l'éveil des patriotismes en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Le gouverneur doit assumer le bilan de sa gestion de la province pendant les presque 4 ans de l'état de siège en tant que commandant des opérations militaires. Il ne doit pas prendre les députés élus de l'Ituri comme son bouc émissaire sur l'échec de la pacification de cette province. C'est la réaction ce vendredi du président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Le député Sami Jakuonga réagissait ainsi aux propos du gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboya, qui sur nos antennes hier jeudi déplorait le non accompagnement des élus du peuple dans la recherche de la paix et de la réconciliation des fils de l'Ituri. Pour les députés Sami Jakuonga, il n'appartient pas aux députés qui ont mandat de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, de mettre fin à la guerre et de favoriser le retour des milliers de déplacés installés dans des sites. Il est au micro d'Isaac Raymond.
Les élus provinciaux avaient déjà exprimé leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la recherche d'une paix durable, à la réconciliation entre les Ituriens. Toutefois, nous avons senti une méfiance de la part du gouverneur. Nous pensons que le gouverneur Boya ne doit pas prendre les élus pour ses boucs émissaires. Tout le monde connaît aujourd'hui le bilan de l'état de siège pendant ces 4 ans de gestion. C'est entre autres tous ces camps de déplacés que nous voyons ça et là. Le bilan, là, c'est aussi le nombre de morts qu'on a enregistrés sous l'état de siège. Et tous ces villages abandonnés, vidés, à la merci des groupes armés. Comment doit-on accompagner quelqu'un qui refuse même de recevoir les députés, qui veut lui présenter la situation sécuritaire de leur circonscription? Il doit tout simplement s'assumer, et assumer surtout le bilan de sa gestion en tant que commandant des opérations en Ituri. Il n'appartient pas aux élus de ramener les déplacés dans leur village respectif.
Le gouvernement provincial de Mai Ndombe exprime sa vive indignation après les actes de vandalisme survenus lors d'une manifestation des enseignants le mardi à Inongo. Ces enseignants ont saccagé les installations et les biens de la Caritas ainsi que de la Direction nationale de contrôle et de la paix des enseignants d'INACOP. Face aux dommages importants causés, le ministre provincial de l'Éducation, Justin Moulapi, annonce l'ouverture des procédures disciplinaires contre les enseignants responsables de ces actes. Il précise que ces mesures administratives s'ajoutent aux poursuites judiciaires déjà lancées par la DINACOP contre les auteurs. Justin Moulapi, ministre provincial de l'Éducation du Mai Ndombe, est joint par Irène Mbomaluzolo.
Nous avons déjà pris des dispositions. Je me suis réuni avec le gouverneur en place. Il y a eu un tête-à-tête. J'ai convoqué les coordinateurs de cet enseignant-là. En tout cas, il y a une action disciplinaire qui est en train d'être initiée à sa charge. Ça, c'est du côté administration. Du côté judiciaire, on a demandé au directeur du Dinakope de les traduire en justice. À l'heure où nous parlons, il est déjà traduit en justice et la justice va faire son travail. Cette personne, c'est lui qui a signé les mémos là. Lui connaît les groupes d'enseignants là qui ont fait les jeux des pierres partout. Donc c'est à lui maintenant au niveau de la justice de dénoncer tout le monde. Bon, administrativement, pour un premier temps, on ouvre l'enquête en commençant par l'action disciplinaire à celui qui a engagé le groupe là. S'il cite les autres, les enseignants là, la procédure va continuer. Le gouvernement provincial est tout à fait contre ces actes-là. Les enseignants sont libres de revendiquer, mais revendiquer par la voie légale. Mais ce que les enseignants ont fait, c'est inacceptable. Nous condamnons ça avec la grande énergie.
Des dommages importants ont été en effet enregistrés, notamment la destruction de la quincaillerie, du panneau d'affichage et de la centrale photovoltaïque de la Caritas, ainsi que des infrastructures et des équipements informatiques de la DINACOP. Rappelons que les enseignants sont sortis dans la rue pour réclamer leur salaire du mois de décembre à la Caritas. Cependant, le responsable local de la Caritas, Inongo, précise que sa structure ne pouvait pas être tenue responsable de ce retard car elle n'a pas encore reçu les fonds de la part du gouvernement pour le paiement de ses enseignants. Les délégués des réseaux de la société civile œuvrant dans la protection des défenseurs des droits humains de l'espace Kasaï mutualisent leurs efforts dans la mise en œuvre des actions communes dans ce secteur. À la suite d'une session de 2 jours clôturée hier jeudi à Kananga, ils ont décidé de travailler pour améliorer le cadre d'information et d'échange dans les dénonciations et les plaidoyers. Un extrait de leur déclaration lu par Angèle Missenga de l'ONG Femmes d'Action nous est proposé ici par François Kadima.
Tenant compte du contexte de travail au sein de nos réseaux respectifs et de nos similarités sur plusieurs aspects dans la zone géographique Grand Kasaï, le passé commun, les réalités culturelles, linguistiques, etc., avons résolu de mettre en place une synergie des réseaux provinciaux de l'espace Grand Kasaï, dénommée Coordination interprovinciale des réseaux de protection des défenseurs de droits humains du Grand Kasaï, en sigle CIRPDDH-GK, dont l'objectif général est de fédérer les efforts pour les actions communes en matière de protection des défenseurs de droits humains et d'améliorer la qualité de travail des défenseurs de droits humains en les rendant plus professionnels par des approches citoyennes en collaboration avec les autorités publiques, autres structures et institutions œuvrant dans la promotion et protection des droits humains, prenant l'engagement de travailler dans le respect des instruments juridiques garantissant les droits humains.
Remise officielle des bâtiments scolaires ce mardi aux sous-divisions éducationnelles d'un CELE 1 et 2 dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, à l'école primaire Ndombe. Cette remise entre dans le cadre du projet dénommé « Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire en CELE Kinshasa RDC ». Jean-Pierre Elali Ekoko pour le reportage.
Au cours de cette cérémonie, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a salué le partenariat entre le gouvernement, la coopération coréenne et l'UNICEF dans ce domaine. Pour elle, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments boostera à coup sûr la formation des élèves.
Des études l'attestent. Les élèves qui évoluent dans des établissements bien équipés obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs dans des conditions d'apprentissage précaires. Aujourd'hui, en dotant nos écoles de ces infrastructures modernes, nous consolidons les bases d'un avenir prometteur pour nos enfants.
La représentante adjointe de l'UNICEF, Dr Marianne Psila, a réaffirmé l'engagement de son agence à accompagner les efforts du gouvernement dans ces domaines avant de présenter ce beau bâtiment.
Nous inaugurons aujourd'hui les fruits de ces travaux. 60 salles de classe neuves, 2 salles polyvalentes, 10 bureaux et 80 portes-latrines au bénéfice de 11 écoles primaires de Célé. Plus de 10 000 élèves bénéficieront directement de ces infrastructures qui contribueront à offrir aux enfants un cadre d'apprentissage sûr et propice à leur épanouissement.
Lancé en avril 2023, ce projet entre dans le cadre du programme de gratuité de l'enseignement de base. Son coût global est estimé à 7,2 millions de dollars américains.
Au Congo central, la deuxième phase du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 12, axe Manterne-Tchiela-Singini, a déjà commencé. La deuxième phase de ces travaux intervient 2 jours après la réception provisoire par l'Agence nationale des grands travaux de la partie déjà réhabilitée. La société civile du territoire de Lukula, qui se réjouit de l'avancement de ces travaux, demande qu'ils s'achèvent dans les meilleurs délais pour faciliter l'évacuation des produits agricoles. Le point avec Nana Plurich Mambou.
La deuxième phase de ces projets de réhabilitation de la route nationale numéro 12, axe Manterne-Tchiela-Singini, d'une durée d'une année, consiste à la construction des ouvrages d'assainissement et d'asphaltage de 40 km de route partant de la cité de Nlemba jusqu'au-delà de la cité de Nsioni en territoire de Lukula. La société civile du territoire de Lukula qui se réjouit indique que grâce à la fin des travaux de la première phase, les commerçants des produits agroalimentaires qui achètent à Nlemba évacuent désormais leurs marchandises aisément vers les centres de consommation. Signalons que ces travaux consistant à asphalter 118 km de route partant de l'agglomération de Manterne jusqu'au village Singini en passant par la cité de Tchiela et à la construction d'une dizaine d'ouvrages tels que ponts et autres avaient été lancés par le ministre des ITPR Alexis Jissaro au mois de juillet 2023. Ils sont exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro dans le cadre du partenariat sino-congolais. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déclaré ce vendredi que le conflit au Soudan devenait encore plus dangereux pour les civils. Propos tenus après la mort de plus d'une douzaine de personnes dans des attaques à caractère ethnique contre des groupes minoritaires dans l'État central d'Al Jazeera. La guerre qui oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR depuis avril 2023 prend une tournure encore plus dangereuse pour les civils, a déclaré Volker Türk sur les réseaux X, ajoutant qu'il existait des preuves de crimes de guerre et d'autres atrocités.
L'invité.
Notre invité dans cette édition, c'est Akizi Mwami Eli. Il est directeur pays de World Resources Institute. Cette organisation soutient la mairie de Bukavu à rendre sain l'environnement de la ville. Il a visité l'un des projets pilotes au monument Major Vangu situé au quartier Panzi, avenue Essence, dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Akizi Mwami Eli s'entretient ici avec Jean Kassami. Suivez.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quelle est la mission primordiale de votre organisation?
Notre organisation appuie les gouvernements et aussi les populations pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour faire à ce qu'il y ait un environnement sain pour la santé de la population. Par exemple, vous voyez ici, avec ce que nous faisons avec la ville de Bukavu, les appuis que nous donnons pour reverdir la ville de Bukavu, mais aussi pour lutter contre les catastrophes liées au changement climatique, notamment la plantation des arbres dans les ravins et aussi la lutte contre la sédimentation et les érosions, mais aussi la lutte contre les dépôts de déchets solides dans les lacs, dans les rivières et aussi dans les barrages.
Peut-on inscrire ce projet dans les temps?
Comme vous le voyez, c'est pas un très grand projet, c'est un projet pilote. Nous voudrions montrer aux gens que le changement est possible. Cette place-là où nous sommes, c'était une place où tout le monde venait déposer de l'immondice. Et maintenant, il y aura des gens qui viendront prendre des photos parce que ça a changé dans moins d'une année. Ça a beaucoup changé. Donc notre projet, c'est un projet de 3 ans, mais on ne peut pas seulement continuer à donner, mais aussi on essaie de changer les mentalités, l'éducation, pour que les gens s'approprient de ce projet. C'est ça qui va assurer la durabilité de ce résultat que nous avons ici. Ici, nous donnons aussi l'appui à la ville d'Uvira, parce que nous ne travaillons pas seulement au niveau de Bukavu, mais aussi nous avons d'autres activités au niveau national. Nous apportons un appui au gouvernement congolais pour le suivi des couverts forestiers, mais aussi le partage d'informations sur la dynamique des couverts forestiers au niveau national.
La RDC est très vaste, 26 provinces, c'est vraiment énorme. Dans combien de provinces intervenez-vous actuellement?
Nous intervenons dans la province du Sud-Kivu. Nous avons fait un travail au niveau de la province du Nord-Kivu, à Bukavu aussi sur les questions d'énergie, mais aussi on a eu un travail sur l'énergie dans la province de Djopo. Et nous sommes en train de développer un projet ou chercher les ressources parce que nous ne sommes pas des bailleurs. Dans la province de Bakongo, par exemple, nous avons fait une visite au terrain et nous avons constaté qu'il y a un grand problème de déforestation. Quand vous voyez la quantité de charbon dans les forêts de Bakongo, vers la ville de Kinshasa. C'est énorme. Donc, nous sommes en train de voir comment développer un projet qui travaille sur les questions d'énergie pour voir comment les gens peuvent migrer de l'énergie charbon vers d'autres alternatives. Nous intervenons sur base des financements que nous recevons des bailleurs. Et pour mobiliser les bailleurs aussi, il faut l'appui du gouvernement. Et donc, ça veut dire qu'après le travail que nous faisons ici, nous envisageons aussi d'étendre cette activité, parce qu'ici, je vous ai dit, c'est un projet pilote, d'étendre cette activité vers d'autres villes, comme la ville de Kinshasa, par exemple. Nous travaillons sur la base des priorités du gouvernement. Nous sommes en train de développer une stratégie de notre organisation pour la RDC. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir comment on peut aussi sélectionner certaines priorités du gouvernement qui cadrent avec aussi notre priorité pour pouvoir aussi intervenir dans d'autres provinces.
Alors, avec quel ministère interagissez-vous directement?
Nous interagissons directement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Aménagement du Territoire, mais aussi avec tout ce que nous faisons, par exemple. Nous allons beaucoup nous intéresser aussi sur les questions de l'énergie, c'est-à-dire que nous serons obligés de travailler aussi avec le ministère de l'Énergie. Donc, nous sommes dans une approche multidisciplinaire et aussi avec l'agriculture. Parce que si vous voyez la plaine d'Oraru, ça c'est un grenier potentiel. Malheureusement, il n'est pas exploité de manière maximale. Il y a une opportunité de développer, par exemple, l'irrigation assistée par l'énergie. Et comme ça, les gens peuvent produire pendant l'année au lieu d'attendre les pluies. Parce qu'il y a la sécurité alimentaire qui est très importante. Vous voyez la ville de Bukavu, maintenant plus de 2 millions d'habitants. Vous voyez, aussi une affaire d'activité agricole. Comment les populations ici vont vivre? Ils vont manger quoi? Est-ce qu'avec tous les problèmes qu'on a ici, les problèmes liés au changement climatique, comment on peut sauver ces populations? Voici comment nous voyons, comment on peut travailler avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement au niveau national, que ce soit le gouvernement au niveau provincial, mais aussi les villes, les mairies.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à vous tous d'avoir suivi ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi, un journal mis en onde par Polydor Basunga et coordonné par Jacques-Yves Molima. Merci de nous faire confiance et de continuer à suivre les programmes de Radio Okapi, le média de la paix.